Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Première fin de semaine d'août 2024. Ici Alex Bergeron et bienvenue au deuxième service du Réchaud. Bonne fin d'avant-midi sur les ondes de CFAC, 88.3 à Sherbrooke et de Chiz, 94.3 à Québec, vos radios universitaires préférées. Content de vous retrouver cette semaine en pleine fièvre olympique. Avez-vous l'envie de regarder les Jeux olympiques? En tout cas, ça fait parler, ça c'est le cas de le dire, pour les bonnes et mauvaises raisons. Ça aussi, c'est le cas de le dire. Jeux olympiques qui s'ouvraient vendredi dernier. Là, on s'est laissé, c'est-à-dire juste avant la cérémonie d'ouverture, qu'on se demandait encore si les Français allaient remporter leur pari de pouvoir faire une cérémonie d'ouverture en extérieur d'un stade, sur la scène. Ça a été mission accomplie. Plusieurs artistes ont participé à ce spectacle-là, notamment Lady Gaga et Aya Nakamura, qui sont, une vedette américaine, mais l'autre est vedette française, la plus écoutée sur les médias de streaming. Spotify, notamment, artiste francophone sur les réseaux de musique, la plus écoutée. Un peu préenregistré d'avance parce qu'il y a la pluie qui tombait tout le long de cette cérémonie d'ouverture. Bon, au début, c'était pas si mal. Lorsque le bateau du Canada et de la Chine est passé, c'était encore autant sec, mais plus la cérémonie avançait et plus on était dans la flotte, plus c'était les averses. Ce qu'on redoutait, évidemment, pour la cérémonie d'ouverture, mais pas assez non plus pour tout canceller. Et ça, mission accomplie de ce côté-là, parce que ça aurait pu prendre une toute autre tournure assez rapidement. Donc, pari remporté, plusieurs controverses également autour de cette cérémonie d'ouverture qui ont éclaté tout au long de la semaine. Notamment, on s'est demandé est-ce que les Jeux olympiques sont maintenant régis par Satan? Est-ce que c'est... Bon, on veut bien en rire, mais bon, il y a eu plusieurs interprétations. La droite religieuse chrétienne très fâchée a vu du satanisme dans l'entièreté de la cérémonie d'ouverture. Bon, il y a eu une dame avec la tête coupée. Bon, c'est pas mal l'histoire de la France résumée là. Pour ceux qui n'auraient pas ouvert de livre d'histoire, tout le monde a reconnu Marie-Antoinette, sauf cette fameuse droite chrétienne fâchée américaine qui appelait à boycotter les Jeux olympiques pour satanisme, entre autres. Gojira non plus n'a pas satisfait les oreilles chastes de cette droite religieuse, mais bon, ce sont des choses qui arrivent. La scène, par contre, à la Bastille était particulièrement impressionnante. On a donné une place à la musique métal, ce qui arrive pas si souvent que ça, mais en même temps, c'était pour montrer l'ensemble de cette diversité culturelle que peut offrir la France, que peut offrir Paris. Et évidemment, ben, les gens qui ne comprennent pas disent que c'est l'œuvre de Satan ou font juste haïr ça pour les mauvaises raisons. Donc, pari remporté pour les organisateurs. Autre scène qui a été énormément controversée, entre guillemets, ou en tout cas, certaines personnes ont trouvé ça controversé et les autres ont juste apprécié le spectacle. C'était la fameuse scène SC, accent grave NE, de Philippe Catherine, nu dans un banquet. Plusieurs ont associé à tort le tableau à la dernière scène de Léonard de Vinci, mais dans les faits, il n'en était rien. C'était plutôt le festin des dieux qui était représenté par Jan Hermes van Bilgert, que je prononce tout croche, bien sûr, qui a été peint vers 1635 et qui est conservé au musée Magnin à Dijon, en France. Évidemment, ben, Philippe Catherine, lui, était plutôt déguisé en Dionysos, Bacchus Dionysos, dieu du vin, de la débauche, qui est allongé au premier plan sur le tableau. C'est ce qu'on a représenté avec Philippe Catherine. Ça n'était donc pas Jésus apprêté dans un buffet, mais Apollon couronné. Toujours sur le tableau. Bon, dans le cas de Philippe Catherine, voilà, c'était déguisé en dieu grec. Dionysos, pour ne pas le nommer, le dieu des jeux et du vin, qui, en interprétant sa chanson nue, a fait référence et a fait clin d'œil au fait que les premiers Jeux olympiques en provenant de la Grèce antique, où l'on retrouvait les athlètes qui compétitionnaient tous nus à l'époque. Ce qui a fait dire au principal intéressé en entrevue post-cérémonie d'ouverture que, ben, dans le fond, c'était ça. C'était le hasard qui voulait que sa chanson qui parle de personnes nues fitait complètement avec les Jeux olympiques et qu'il avait pensé aux Jeux olympiques. Il a envoyé sa cassette, il a envoyé son démo en disant « Bonjour, j'aimerais participer aux Jeux olympiques si vous voulez m'intégrer à la cérémonie d'ouverture. » Et encore une fois, parce que les gens, en dehors de la francophonie, ont découvert Philippe Catherine ce vendredi soir-là, ben évidemment, ils savent pas qui est le personnage. Donc, pour eux, c'est un étrange énergumène, à moitié tout nu, en bleu, qui porte le message de Satan. Je sais pas trop. Là, on est comme revenu à l'époque des sorcières, tu sais, on est revenu à cette époque-là, on comprend pas, donc c'est des sorcières, faut les brûler. Ben, Philippe Catherine était une sorcière, fallait la brûler ce vendredi-là, parce que, bon, des affaires qu'on voit jamais aux Jeux olympiques d'habitude, mais c'est ça qui est drôle, c'est quand on leur demande après ça, qu'est-ce qu'ils auraient aimé voir dans la cérémonie d'ouverture, ben, ils ont pas vraiment de réponse, ou ça serait une cérémonie très, très plate, et juste de montrer du monde qui marche et that's it. Fait que... Évidemment, on peut pas rendre tout le monde heureux, mais les gens qui n'ont pas compris le niveau, qui n'ont pas compris la représentation de la culture française, tu sais, notamment l'espèce de couple à trois, ben c'est le livre « L'amour à trois » qui était représenté, parce que tout le long, on présentait la littérature française dans ce tableau-là. Donc, il y avait... Tu sais, il y avait des niveaux plus intellectuels, c'est sûr, mais automatiquement, lorsqu'on comprend rien, ben on dit que c'est satanique et que c'était problématique. Donc, cérémonie d'ouverture qui en a partagé plus d'un, et justement dans un air où tout est politisé, où tout doit être blanc ou noir et qu'il n'y a plus de juste milieu, ben on prend des trucs anodins, genre un gars qui portent des collants de femmes et parce qu'ils sont déchirés, ben on dit que qu'on voit ses testicules. Et le genre d'autres niaiseries que l'on peut voir sur les réseaux sociaux qui donnent place à la désinformation, et on en parlera également dans le prochain segment de cette désinformation-là. Mais bon, concentrons-nous sur le positif. Équipe Canada va bien pour l'instant au tableau des médailles. La première médaille a été remportée notamment par Summer McIntosh, qui a remporté la médaille d'argent, qui est la deuxième médaille olympique de l'histoire du Canada en 400 mètres libre féminin. C'était la toute première médaille qui a été remportée aux Jeux olympiques pour Équipe Canada. Donc, c'est revenu à Summer McIntosh, qui a complété son trio de médailles en remportant deux autres médailles, cette fois-ci en or. Et c'est la première fois qu'une athlète olympienne canadienne, si c'est pas athlète olympien canadien, point, je pense que c'est la première olympienne à remporter trois médailles dans une même session olympique, dans des mêmes jeux. Dans son cas, elle, c'était, bon, voilà, le 400 mètres style libre féminin, le 400 mètres quatre nages individuel et le 200 mètres papillon, où elle a remporté la médaille d'or. 200 mètres papillon, qui était d'ailleurs la discipline de sa mère, présente dans les gradins. Celle-ci avait participé, si je me souviens bien, aux Jeux de Los Angeles. Et en 92, c'est peut-être pas Los Angeles à ce moment-là, mais en tout cas, 92-88, Barcelone, 92, où elle avait, bon, elle, compétitionné au papillon également. Sa fille, elle, remportera l'or quelques 22 ans plus tard à la piscine semi-profonde de la France. D'ailleurs, piscine qui est hautement critiquée parce que, justement, des temps records ne sont pas toujours établis, ou en tout cas, on est un peu plus lent que la moyenne habituelle en pensant que, justement, cette piscine-là, temporaire, parce qu'il faut le dire, c'est une piscine temporaire qui est organisé pour la natation parce qu'il y aura d'autres compétitions dans ce même aréna-là, mais autre qu'aquatique. Et puis voilà, donc piscine temporaire, peut-être pas assez profonde comme une piscine olympique ordinaire, ce qui fait en sorte que certains résultats sont peut-être un peu plus lents qu'à l'habitude, mais évidemment, ce n'est pas des médailles qui ne sont pas méritées. Évidemment, autre médaille qui a été remportée par Équipe Canada, c'était au lendemain Éléonore Harvey qui a remporté la toute première médaille en escrime pour un athlète canadien. Elle a remporté le bronze, toute première médaille olympique de l'histoire de l'escrime du Canada, qui complétait le jour 2 avec une d'argent, une de bronze. Le lendemain, c'était un bronze historique également, puisque Rylan Waynes et Nathan Zasbourg-Murray ont remporté la toute première médaille olympique du Canada dans l'épreuve masculine du 10 mètres synchro et la toute première médaille en plongeon depuis Alexandre Despatie, qui a été le dernier à remporter une médaille en 2008, si je ne me trompe pas. Donc, il y a eu un hiatus de quelques 12 années avant, 2008, ça voudrait dire plutôt 16 ans entre la dernière médaille de plongeon et celle-ci. Dans ce cas-ci, c'est la toute première en natation, en plongeon synchronisé pour ces deux-là. Surprise qui a été créée, Christian Deguchi qui a remporté la toute première médaille, qui a remporté la première médaille d'or de l'histoire du Canada en judo. Une compétitrice qu'on n'attendait pas nécessairement, qui n'était pas considérée comme espoir de médaille, mais qui a causé la surprise en remportant la médaille d'or par disqualification de son adversaire. Et elle-même était la première surprise à l'avoir emportée. Comme je le disais, Summer McIntosh, quelques heures plus tard, remportait le 400 mètres nage individuel à l'or, ce qui complétait le troisième jour avec deux médailles d'or, une d'argent et deux de bronze pour le maître synchronisé. On poursuit cette récolte de médailles du Canada puisque le rugby à 7, surprise causée par les Canadiennes qui remportent la médaille d'argent. Elles n'ont pas réussi à vaincre l'équipe de la Nouvelle-Zélande, mais l'équipe de la Nouvelle-Zélande était vraiment la meilleure équipe de ce tournoi-là. Pour se rendre à cette finale inespérée, elles ont dû, l'équipe canadienne, se battre contre les Françaises, donc équipe locale, causer la surprise en les battant et en avançant au quart de finale. Quart de finale qui n'avait jamais été atteint par l'équipe de rugby à 7. Donc, on établissait déjà un record canadien en remportant contre les Australiennes, l'autre équipe favorite à battre dans ce tournoi olympique-là, et en passant en pour les demi-finales contre l'équipe australienne et la finale contre l'équipe néo-zélandaise. Mais l'équipe repart tout de même avec la médaille d'argent qui était totalement inespérée également. Donc, belle surprise du côté du rugby à 7. Autre médaille, voilà, du côté de la natation, c'était Ilia Karoun au 200 mètres papillon bronze, dans son cas, qui a marqué ces journées-là. Et on continue d'avancer, bon, un peu dans le désordre. Vendredi matin 2 août, Sofiane Mettot remportait la médaille de bronze pour la trampoline féminine. Et, c'est un trampoline féminin. En tout cas, la compétition est féminine, mais c'est un trampoline. Voilà. Ce qui fait en sorte que le Canada est présentement, au moment d'enregistrer l'émission, à 3 médailles d'or, 2 d'argent et 4 de bronze. C'est l'escrime, le plongeon, la trampoline et l'autre médaille de bronze est en natation. Voilà, donc pour les médailles. Ce qui fait en sorte que le Canada occupe le 9e rang au nombre de médailles cumulé avec 9. Les trois premières positions sont les États-Unis avec 41, la France avec 31 et la Chine avec 27. Mais au nombre de médailles d'or, c'est la Chine qui est en première position avec 13 médailles d'or. En seconde position, toujours au moment d'enregistrer, le tableau a changé. En deuxième position, c'est les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne avec 9 médailles d'or. La quatrième position est donc à l'Australie et au Japon, même la cinquième place. À l'Australie, le Japon avec 8 médailles. Ce qui fait en sorte qu'au nombre de médailles d'or, le Canada est à la 10e position avec ses 3 médailles d'or. On s'arrête quelques instants au retour. On continue à parler un petit peu de ces controverses-là qui entourent les Jeux olympiques, notamment en boxe. Il y a eu malheureusement un débat organisé contre deux athlètes qui ne seraient pas assez féminines pour compétitionner quand, dans les faits, ben, c'est pas ça qui arrive. C'est de la désinformation pure et dure venant de la Russie. Vous écoutez le deuxième service sur les ondes de CFAQ, sur les ondes de CHIZ. De retour au deuxième service, fièvre olympique qui se poursuit. D'ailleurs, en vendredi matin, Félix Auger-Aliassime se présentait en solo. Malheureusement, il a été défait par son adversaire qui, évidemment, j'ai pas le nom sous les yeux, mais qui a remporté, par contre, quelques heures plus tard, le tournoi mix, avec la médaille de bronze avec Gabriela Dabrowski, donc médaille de bronze supplémentaire au total du Canada. Controverse qui a eu lieu, Félix Auger-Aliassime qui a été dominé par Alcaraz en demi-finale à Paris. Donc, malheureusement, Félix Auger-Aliassime ne pourra pas continuer. L'Espagnol a été malheureusement meilleur que lui. Alcaraz accédera à la finale des Jeux. À la finale, il lui concourra pour la médaille d'or. Alcaraz, dis-je bien, se présentera pour la médaille d'or espagnole, deuxième tête de série qui a vaincu Félix en 1h15 sur la terre battue du stade Roland-Garros où se déroulent les matchs. Voilà, donc je parlais de controverses. Il y en a une, notamment en boxe féminine, où bon, la désinformation a fait son œuvre et malheureusement, ça a fait en sorte que deux boxeuses se retrouvent sous les feux de la rampe par, encore une fois, une droite fâchée de tout et qui veut... et qui mélange tous les dossiers pour rester le plus poli. On parle des boxeuses Iman Khelif de l'Algérie et la Taïwanaise Lin Yu Thing, qui sont tous deux boxeuses. Elles avaient participé aux Jeux de Pékin 2020 en 2021. Pas Pékin, mais Tokyo. L'Algérienne avait été éliminée en quart de finale dans sa catégorie. La Taïwanaise, elle, en huitième de finale il y a 3 ans. Jeudi, Iman Khelif a remporté son premier combat des Jeux de 2024 en moins d'une minute après l'abandon de l'Italienne Angela Carini. Controverse qui éclate à la suite de ça. Nombreuses réactions, bien sûr, basées sur de la désinformation, puisque notamment la première ministre de l'Italie d'extrême droite, Giorgia Meloni, a affirmé que les athlètes qui ont des caractéristiques génétiques masculines ne devraient pas être admis aux compétitions féminines. Rien de moins, donc elle est allée d'une déclaration en disant que Iman Khelif serait en fait un homme, ce qui est bien sûr faux, puisque pour la petite histoire, d'où partent cette fausse information-là, c'est que Iman Khelif et Lin Yu Thing ont été disqualifiés des championnats du monde de boxe amateur en mars 2023 pour avoir échoué à des tests de féminité. Elles ont toutefois passé tous les tests nécessaires pour prendre part aux Jeux de Paris, selon le Comité international olympique, dans une déclaration fournie. Tous les athlètes participant au tournoi de boxe des Jeux olympiques de Paris respectent les règlements d'admissibilité et d'inscription de la compétition. Toutes les réglementations médicales applicables sont respectées. Cela inclut la participation d'un certificat médical dûment tamponné et signé par une autorité médicale compétente dans les 3 mois précédant les Jeux selon les règles de la compétition. Porte-parole du Comité olympique, Mark Adams, a d'ailleurs indiqué en conférence de presse que les 2 boxeuses sont entièrement admissibles. Elles sont des femmes. Elles ont concouru à Tokyo. Je pense que nous aurions la responsabilité de calmer le jeu et de ne pas transformer cela en une sorte de chasse aux sorcières. Ce sont des athlètes régulières qui concourent depuis de nombreuses années en boxe. Malheureusement pour Mark Adams, justement, cette même droite américaine religieuse est très fâchée sur les réseaux sociaux, s'en est emparée, a commencé à dire que c'était des hommes, parce que l'histoire des tests échoués. On revient à l'année dernière. Aux Jeux olympiques, l'organisation de chaque compétition dont le choix des règles entourant les tests de féminité sont prises en charge par un organe directeur de la discipline en question. Les derniers championnats du monde féminin de boxe amateur ont été organisés par l'Association internationale de boxe, la IBA. La IBA est anciennement l'organe directeur de la boxe des Jeux olympiques, mais n'est désormais plus reconnue par le Comité olympique en raison de problèmes de gouvernance, de scandales d'arbitrage à répétition et de sa dépendance financière au géant russe du pétrole Gazprom. Donc, on essaie d'être apolitique aux Jeux olympiques, mais disons que la Russie avait une bonne mainmise sur la réglementation de la boxe. Les 2 boxeuses ont été exclues en 2023 puisqu'elles ne respectaient pas les critères d'admissibilité. Citant le secret médical, l'Organisation internationale de boxe n'a d'abord pas expliqué les motifs précis de la disqualification. Son président a ensuite déclaré une agence de presse russe que les tests d'ADN qu'ont subis les boxeuses auraient révélé qu'elles avaient des chromosomes XY habituellement attribués au sexe masculin. Donc, la source s'est adressée à un organe de presse russe pour disqualifier 2 boxeuses en disant que ce seraient peut-être des hommes. Historiquement, s'il y a bien un pays dans le monde qui n'est pas particulièrement tolérant envers les transgenres, il y a bien sûr la Russie, mais aussi l'Algérie. Donc, de voir l'image d'un athlète transgenre représenter l'Algérie dans une compétition de boxe féminine, les chances sont assez minces, mais c'est ce que rapportent plusieurs médias qui s'abreuvent de cette mésinformation-là, de cette désinformation-là venant d'un organe de presse russe qui n'est pas non plus les organes de presse les plus fiables sur la planète. Ça fait en sorte que, justement, cette affaire de traduction-là aussi n'est pas particulièrement fiable non plus, puisque un gars de l'organisme russe qui a été mis de côté par les Jeux olympiques révèle que 2 des boxeuses qui vont concourir dans la nouvelle organisation de boxe, chapeautée par la nouvelle organisation, qui, elle, laisserait soudainement passer des hommes qui transitionnent pour devenir femmes à la compétition de boxe. Comme par hasard. Et ce qui arrive, et ce qui a été déjà décrié, c'est que les 2 boxeuses en question, c'est pas leur premier Jeux olympiques en tant qu'athlète féminine, c'est leur Xème jeu, du moins 2e Jeux olympiques sûr, mais ils ont quand même compétitionné dans leur pays respectif pour se rendre à représenter leur pays. Leur seul défaut, c'est d'avoir des traits dits masculins au visage, d'avoir des traits peut-être un peu plus carrés, parce que croyez-le ou non, mais les hommes et les femmes produisent de la testostérone, oui, et c'est ce qui a fait en sorte qu'elles ont été disqualifiées en 2023, c'était que leur niveau de testostérone était un peu trop élevé pour les critères d'admissibilité. Pas parce qu'elles sont des hommes en train de devenir femmes, c'est parce que leur niveau de testostérone au moment de prendre part aux compétitions était trop élevé. Donc, par précaution, avec un peu trop de testostérone, on les a retirés de la compétition. Cette année, par contre, leur niveau était plus acceptable. Donc, c'est pour ça qu'on les laisse concourir. Mais ce n'est pas la première fois qu'elles participent à des compétitions internationales, qui plus est à des Jeux olympiques. Les deux étaient là à Tokyo. Dans une déclaration publiée jeudi après-midi, le comité organisateur olympique a déclaré que les deux athlètes étaient les victimes de décisions soudaines et arbitraires de l'IBEA et qu'elles avaient été soudainement disqualifiées sans aucune procédure régulière. Donc, ce test-là de chromosomes n'est pas un test valable dans la nouvelle organisation, ou en tout cas, ce n'est pas pour donner un véritable prétexte, puisque normalement, c'est le niveau de testostérone qui devrait être pris en considération. Cette décision a initialement été prise par le secrétaire général et le PDG de l'IBEA. La commission d'administration de l'IBEA ne l'a ratifiée qu'ensuite et n'a demandé qu'après qu'une procédure soit suivie dans des cas similaires, peut-on lire. Pour le comité olympique, il s'agit d'un exemple de mauvaise gouvernance de l'IBEA qui a mené, entre autres, à leur congédiement d'être ceux qui régissent les Jeux olympiques. Le comité olympique algérien avait d'ailleurs dénoncé cette semaine et par le passé des attaques malveillantes et non éthiques contre son athlète. Ces tentatives de diffamation basées sur des mensonges sont totalement injustes, surtout à un moment crucial où elle se prépare pour les Jeux olympiques, le sommet de sa carrière, peut-on lire dans une déclaration publiée sur le site web du comité. Donc, pour résumer, Iman Khelif, Lin Yu Thing ont des niveaux de testostérone plus élevés peut-être que les autres compétitrices de boxe. En 2023, elles ont été disqualifiées parce que ce niveau de testostérone-là n'a pas été... Les maximales étaient dépassées. Un Russe, à quelque part, est allé dire à un organe russe qu'il y avait deux hommes dans les compétitrices de boxe qui allaient concourir aux Jeux olympiques de Paris. La désinformation russe, on a parlé dans d'autres émissions, fait rage depuis le début, disait qu'il y allait avoir des attentats pendant la cérémonie d'ouverture, qui n'est pas arrivé, que la criminalité était à des sommets jamais égalés, ce qui n'est pas vrai non plus. Comme par hasard, les Russes qui se font retirer une participation importante dans la compétition de boxe, soudainement, l'autre organisme qui les remplace laisse passer des hommes. Tout ça est alimenté par la désinformation, par justement la propagande russe. Tout ça est alimenté notamment par la présidente italienne qui dit n'importe quoi, étant d'extrême droite et évidemment contre les transgenres. Ce serait pas complètement surprenant. Et tout ça part du fait que la boxeuse italienne a dit qu'elle ne voulait pas concourir parce que oui, peut-être que Iman Khelif frappait fort, mais ça reste de la boxe. C'est un combat de boxe. Et elle, ne voulant pas se faire taper dessus, déclare forfait. Et dans ce cas-ci, peut-être c'est justifié. Peut-être qu'elle avait peur de faire une commotion cérébrale et qu'à un moment donné, les commotions cérébrales, ça ne justifie pas tout et surtout pas de se ramasser à l'urgence pour ça. Mais tout ça pour dire que c'est parti de mauvaises intentions. Ça a été monté en épingle. C'était rendu que les deux compétitrices étaient rendues des hommes alors qu'elles sont des boxeuses depuis plusieurs années et des boxeuses femmes. Seulement qu'elles ont le défaut d'avoir un peu trop de testostérone dans le corps et au niveau de la génétique, retenir peut-être un petit peu plus du père qui lui a des traits plus forts que la mère, qui fait en sorte qu'elles sont moins féminines aux yeux d'une certaine frange de la population qui voudrait que ça soit toutes des top modèles féminins ou très doux qui compétitionnent dans tout, alors que dans ce cas-ci, ben ça existe. La génétique fait en sorte que malheureusement pour elle, et dans un climat tellement tendu qu'est, entre autres les Olympiques, mais en général, l'appréhension que peuvent avoir certaines personnes que des transgenres compétitionnent dans des compétitions strictement féminines, mais qui vont dans les compétitions féminines juste pour faire des médailles. Donc dans ce cas-ci, la désinformation a régné sur ces deux boxeuses-là. qui, malheureusement pour elle, en font les frais. En font les frais, voilà. On s'arrête là-dessus, au retour, la suite du deuxième service sur les ondes de CFAQ, sur les ondes de CHIZ. De retour au deuxième service, Thierry Larose, si tu comprendras maintenant, tu ne comprendras peut-être jamais qu'on vient d'entendre en musique sur les ondes de CFAQ, sur les ondes de CHIZ. Restons, allons en Amérique du Sud, restons à l'international, puisque la semaine dernière avait lieu au Venezuela des élections qui sont largement contestées de toutes parts, sauf à peu près trois personnes qui, évidemment, on se doute bien ici, qui, longue histoire courte, des élections ont lieu au Venezuela la fin de semaine dernière pour savoir si le peuple vénézuélien redonnait confiance ou non à Nicolas Maduro. Dimanche dernier avait lieu le premier tour des élections présidentielles. Nicolas Maduro est au pouvoir depuis 2013, lui-même qui avait succédé à Hugo Chavez à la tête du pays entre 2002 et 2013. Donc c'est, pour ainsi dire, le même parti depuis 22 ans qui règne sur le Venezuela. Alors même que les résultats sont annoncés, les civils descendent dans les rues pour contester cette élection où toutes les preuves mettent en évidence une fraude électorale. Les premières tensions éclatent dans la nuit avec des affrontements. La garde nationale est déployée dans le pays. Les forces de sécurité tirent à balles réelles, ce qui est loin d'arrêter la crise. Elle ne fait que renforcer le sentiment d'injustice et la population se mobilise. Où il n'y a pas de surprise, seuls les présidents et premiers ministres de la Chine, l'Iran et la Syrie ont félicité Nicolas Maduro pour sa réélection, tandis que la majorité des pays d'Amérique du Sud ne reconnaissent pas les résultats. Les États-Unis ont annoncé vendredi matin qu'ils contestaient le résultat de l'élection, ainsi que les pays d'Europe. Donc, personne ne croit à cette théorie que Nicolas Maduro a remporté avec 51% des suffrages. Un appel aux manifestations par l'opposition a été lancé pour samedi le 3. Comment Nicolas Maduro aurait réussi à se maintenir au pouvoir? Ben, comme on le disait, les résultats électoraux sont plus que mystérieux. Les autorités ont annoncé des résultats globaux un peu après minuit, toujours dimanche, donc dans la nuit de dimanche à lundi, mais ont affirmé qu'elles ne pouvaient pas donner le détail de chacun des 30 000 bureaux de vote. Comme par hasard, elles ont promis de publier le résultat dans les prochains mois. Évidemment, on n'a pas plusieurs mois devant nous, donc c'est pour ça que déjà en partant, il y a un gros point d'interrogation de comment se fait-il qu'un vote doublement vérifié, on n'a pas les résultats. Déjà là, premier point d'interrogation. Les fonctionnaires du Conseil national électoral ont affirmé que le délai était dû à une agression contre le système de transmission des données qui avait retardé le décompte officiel. Nicolas Maduro s'est officiellement proclamé président du Venezuela par le Conseil national électoral qu'il contrôle, que le gouvernement contrôle lui-même, qui n'est pas apolitique. Dans son discours de victoire la veille, il avait dénoncé un piratage, semble-t-il, des machines électorales. Dans les jours précédant le vote, tous les sondages fiables, donc qui n'étaient pas commandités ou qui venaient du régime vénézuélien, donnaient pour leur part une victoire de l'opposition avec 20%, avec 20 points d'avance et non pas une dizaine de points de retard comme les résultats l'ont, en tout cas les résultats partiels l'ont donné victorieux. Au Venezuela, le vote est électronique. Les machines impriment un bulletin papier qui permet aux citoyens de vérifier que le décompte numérique compilé par le Conseil national électoral est le bon, est correct. À la fermeture du vote, chaque machine imprime un document avec le décompte des voix. Donc, on a comme une troisième vérification qui se fait avec chaque machine qui donne les résultats individuellement. Dimanche, dans plusieurs bureaux clés, les responsables électoraux ont refusé de remettre les décomptes aux observateurs, selon le New York Times. Les observateurs sont composés de membres et de l'équipe de Maduro et de l'équipe de l'opposition, soit l'équipe de Maria Corina Machado et Edmundo González, qui sont candidats à l'opposition à la présidentielle. Donc, l'opposition officielle. Donc, il y a des irrégularités. On ne veut pas les montrer et on ne veut pas les vérifier. Parce que ces bureaux clés-là, justement, donnaient probablement une défaite à Maduro. Maria Corina Machado a assuré que 40 % des documents auxquels la coalition d'opposition ont eu accès montraient que l'opposition avait obtenu 70 % des voix. Donc, 70 % du 40 %, donc 25-30, là, les mathématiques sont loin ce matin, mais tu sais, un 25-30 en faveur de l'opposition versus le dernier 30 Maduro plutôt, ce qui ferait en sorte que à partir de ce moment-là, donc ça voudrait dire que le dernier 60% qui n'était pas connu aurait fallu qu'il soit remporté à 90-95% uniquement à Maduro, donc qu'il remporte tous les autres bureaux de circonscription pour qu'il obtienne son 50+1. Donc, mathématiquement, il faudrait qu'il remporte chacun des bureaux de vote qu'on n'a pas montré de résultat pour ainsi lui donner cet avantage-là qu'il, normalement, ne devrait pas avoir. Et comme par hasard, justement, ces bureaux de votants-là, les plus populeux probablement ou les plus importants, eux, comme par hasard, on n'est pas capable d'avoir accès à ces informations-là. L'opposition a 20 jours après la proclamation des résultats pour contester devant le Conseil national électoral vénézuélien. L'étape suivante est de se tourner vers les tribunaux. Or, toutes ces instances sont contrôlées par Hugo Chavez. Donc, contrairement à nous autres, Élections Canada, Élections Québec, le système judiciaire ne répond pas à Justin Trudeau ou à François Legault. Ce qui fait en sorte que, justement, les tribunaux peuvent débouter le gouvernement sur des projets de loi qui ne font pas de sens. Dans le cas de Chavez, il est au-dessus de ça. Maduro, il est au-dessus de ça. Ce qui fait en sorte que, quand même que l'opposition aille devant l'élection Venezuela en disant « nous contestons les résultats », ben ils vont dire « non, non, nos résultats sont bons ». Ils vont à la Cour suprême « non, non, les résultats sont bons, franchement, qu'est-ce que vous dites là ?» Donc, c'est perdu de toute façon. Et voilà, donc, vendredi matin, officiellement, les États-Unis et plusieurs pays d'Europe unissaient leur voix pour dénoncer la gestion controversée des élections du week-end dernier au Venezuela. Le sénateur américain Ben Cardin, qui préside la Commission des affaires étrangères du Sénat, fait front commun avec plusieurs homologues européens pour accentuer la pression sur le président vénézuélien, selon un communiqué qu'a consulté l'agence de presse Reuters. Vendredi matin, une douzaine de pays d'Europe, dont l'Allemagne et l'Italie, avaient signé cette note censée être publiée prochainement. Ils exigent que Nicolas Maduro rende publiques les feuilles de décompte des votes de l'élection. Les États-Unis ont reconnu jeudi l'opposition de Maduro comme étant les véritables vainqueurs, discréditant au passage les résultats officiels du vote à la présidentielle qui ont été rendus publics. Le corps électoral vénézuélien a déclaré l'ancien président vainqueur, mais la principale coalition d'opposition a révélé quelques heures plus tard qu'elle disposait de preuves qui donnaient le pouls contraire à ce qui a été avancé. La chef de l'opposition, Maria Corina Machado, qui n'a pas été autorisée à se présenter à la présidentielle, et son candidat à la présidence, voilà, Edmundo González, affirment tous deux avoir obtenu plus du 2/3 des feuilles de pointage imprimées à partir des machines de vote électronique après la clôture du scrutin. Ils ont assuré que la publication des données sur ces décomptes prouvait que le président Maduro a perdu. Comment se fait-il que finalement il remporte avec 50+1, avec 51% des voix? Ça ne fait aucun sens. Donc voilà les élections truquées du côté du Venezuela. Interrogé sur les raisons pour lesquelles les autorités électorales n'ont pas publié le décompte détaillé des ventes, Nicolas Maduro a déclaré que le Conseil national avait été cible d'attaques, notamment de cyberattaques, sans donner d'autres détails. Donc on les a cyberattaqués, mais on ne précise pas de quelle manière, comment Et pourquoi est-ce que les résultats ne sont pas connus au grand complet? Donc, malheureusement, il n'y aura probablement pas de possibilité de vérifier ce qui s'en est vraiment, ce qui s'en est vraiment passé. Les résultats officiels, entre guillemets, qui ont été publiés, indiquent que le président aurait obtenu 5,1 millions de voix contre 4,4 pour l'opposition. Dans les faits, l'opposition, elle, déclare avoir reçu plutôt 6,2 millions de voix contre 2,7 pour Maduro. Donc, un résultat beaucoup moins serré que peut l'être avec celui des résultats officiels, encore une fois, contrôlés par celui qui se maintient au pouvoir depuis 22 ans. Le parti qui se maintient au pouvoir depuis 22 ans. Compte tenu des preuves accablantes, il est clair que pour les États-Unis, et plus important encore pour le peuple vénézuélien, Edmundo González Urrutia a remporté le plus de voix lors de l'élection présidentielle du 28 juillet au Venezuela, a déclaré Anthony Blinken, secrétaire d'État américain, dans un communiqué. Nicolas Maduro a répondu en disant « Les États-Unis doivent garder le nez hors du Venezuela. Mêlez-vous pas de ce qui vous regarde pas. » Les hommes armés s'en seraient pris vendredi au bureau de l'opposition à Caracas. Vente Venezuela, le parti de la chef de l'opposition, Bente Venezuela, le parti de la chef de l'opposition, Maria Corina Machado, qui a revendiqué la victoire de son candidat, a indiqué sur le réseau social que son siège national avait été cible d'attaque vers 3 heures du matin avec des coups d'œil, avec des armes à feu. 6 hommes cagoulés non identifiés ont maîtrisé les agents de sécurité, les ont menacés, ont commencé à peindre des graffitis, à casser des portes et à s'emparer du matériel et de documents. Toujours selon le parti qui a diffusé des vidéos sur Netflix, notamment Netflix sur Twitter, pour montrer des graffitis peints en noir, notamment donc le vandalisme qui avait été causé dans leur bureau. Les Vénézuéliens ont montré la porte à Nicolas Maduro, a-t-il écrit. Il appartient désormais à la communauté internationale de décider si elle doit tolérer le gouvernement manifestement illégitime. Dans un article d'opinion publié jeudi dans le Wall Street Journal, Mme Macadas a révélé qu'elle se cache, craignant pour sa vie et sa liberté, ainsi que celle de ses compatriotes. Elle a réaffirmé que l'opposition disposait de preuves matérielles de la défaite du président Maduro aux élections et exhorte la communauté internationale à intervenir. Donc, le bordel est encore là pour quelques semaines. Ce serait optimiste de dire moins, mais le bordel est vraiment pogné au Venezuela. Nicolas Maduro qui s'accroche au pouvoir malgré la défaite électorale non reconnue par des instances régies par lui-même qui, évidemment, ne le donne pas ne le prennent pas en défaut, évidemment. On s'arrête là-dessus au retour. La conclusion du deuxième service cette semaine. Vous écoutez le deuxième service sur les ondes de CFAQ, sur les ondes de CHIZ. On termine cette semaine. Bon, si on a parlé d'élections controversées au Venezuela, il y en a d'autres qui vont être controversées certainement. Ce sera du côté des États-Unis. Donald Trump qui fait parler de lui pour les mauvaises raisons encore une fois cette semaine. Dans le cas de Donald Trump, il s'est présenté devant l'Assemblée annuelle, l'Association nationale des journalistes noirs des États-Unis, dans la convention annuelle à Chicago le 31 juillet dernier, notamment pour répondre à des questions, notamment pourquoi vous haïssez les journalistes noirs. Blague à part, il y avait quand même... C'est un peu ça la question aussi qui était posée, puisque, bon, à de nombreuses reprises, Donald Trump a été extrêmement méprisant avec les journalistes, qui plus est avec les journalistes afro-américains. Donald Trump a mis en doute notamment l'appartenance ethnique à la vice-présidente Kamala Harris. Bon, interrogé sur des déclarations de certains élus de son parti pour qui la candidate démocrate pressentie est seulement là en raison d'un programme de diversité, équité et inclusion, Donald Trump a laissé entendre que Kamala Harris se présentait dorénavant comme étant noire pour des raisons politiques. Juste ça. Elle a toujours été d'origine indienne et elle ne faisait que mettre en avant son héritage indien, a dit Donald Trump, provoquant, comme à plusieurs autres occasions, des réactions de l'Assemblée composée de membres de l'Association nationale des journalistes noirs, la NABJ. Je ne savais pas qu'elle était noire jusqu'à ce qu'il y a quelques années, alors qu'elle était devenue une noire et qu'elle se définit maintenant comme une noire. Alors, je ne sais pas. Est-elle indienne ou est-elle noire? Est allée du grand philosophe Donald Trump. Ce qui faisait également en sorte que plusieurs Américains découvraient que dans la vie, il se pouvait que les parents d'un enfant puissent venir de deux pays différents. Dans le cas de Kamala Harris, son père est jamaïcain, qui fait en sorte qu'il est noir, et sa mère est d'origine indienne. Ce qui fait en sorte que, oui, Kamala Harris n'est peut-être pas la noire. Ce qui fait en sorte que Kamala Harris a un double héritage culturel. T'sais, oui, elle est venue étudier au Canada, mais elle est quand même née aux États-Unis, ce qui est un prérequis pour être président des États-Unis, être née aux États-Unis. Et puis bon, le métier de ses parents a fait en sorte qu'elle est venue à Montréal. Et techniquement, ça ferait en sorte que si Kamala Harris devenait présidente, elle serait la première présidente des États-Unis à avoir été au cégep. À vérifier, c'est vraiment... Il me semble que oui, elle est allée au cégep pour vrai. Donc, ce serait la première présidente des États-Unis à avoir fréquenté un cégep, ce qui est quand même particulier, ayant fait ses études à Montréal, notamment. Mais tout ça pour dire que, bon, comme on trouve un petit peu moins de défauts à Kamala Harris qu'à Joe Biden, on essaye de gratouiller le plus qu'on est capable de trouver pour essayer de discréditer la candidate adverse, autre que son âge et qu'elle a de la difficulté à s'exprimer, puisqu'elle est beaucoup plus jeune que Donald Trump. Et elle est capable de prendre part à une discussion. Oui, son défaut, c'est qu'elle rit. Aussi que Kamala Harris a du plaisir, donc ça, c'est un défaut pour les Républicains, qu'elle soit ricaneuse. Comme par hasard, Valérie Plante a eu le même traitement à Montréal, ben Kamala Harris est souriante et est une nouvelle noire selon Donald Trump. Donc, c'est mince. C'est mince, on va le dire ça comme ça, alors que Donald Trump devient, comme on le rappelle, le plus vieux candidat de l'histoire des États-Unis à se présenter à une élection américaine maintenant que Joe Biden n'est plus dans la course. Prenant la parole en soirée devant les membres au Texas, Kamala Harris a brièvement abordé la participation de Donald Trump à la conférence du côté de Chicago. Aujourd'hui, nous avons eu un autre rappel de ce qu'a été le mandat de l'ex-président républicain, a-t-elle dit. C'était le même vieux spectacle, la division et le manque de respect. Et permettez-moi de vous dire, les Américains méritent mieux. C'est sans rappeler, en fait, le fait de mettre en doute les origines ethniques de Kamala Harris. C'est sans rappeler que Barack Obama avait subi le même traitement à l'époque où son deuxième prénom, Hussein, et le fait qu'il était né à Hawaï, si je me souviens bien, ben il y avait des images qui circulaient de faux certificats de naissance qui disaient que Barack Obama n'était pas né aux États-Unis. Et ben l'histoire se répète. Il est né à Honolulu, voilà. L'histoire se répète avec Kamala Harris. On dit que ce n'est pas une vraie noire. Barack Obama non plus n'est pas assez foncé pour être un président noir, semble-t-il. Kamala Harris, bon voilà, vu qu'elle a vécu au Canada, ben, elle n'est pas assez américaine, des choses comme ça. Fait que c'est assez mince. C'est assez mince. Et puis bon, normalement, Donald Trump est habitué à être sur des plateaux où on l'accueille en roi et maître. Évidemment, en étant au congrès des journalistes noirs, c'était pas dans la poche pour lui. La première question, voilà, comme je mentionnais au début, la journaliste d'ABC a demandé, Rachel Scott, à l'ancien président, pourquoi les électeurs noirs devraient lui faire confiance après qu'il ait eu contesté la citoyenneté de Barack et maintenant Kamala. D'insulter Nikki Haley, d'insulter les députés et les journalistes noirs, citation à l'appui, et inviter des suprémacistes blancs à Mar-a-Lago. Et tout ce qu'il a trouvé à dire, c'est « ben, je vous trouve très bête, jamais personne ne m'a posé de question de manière aussi horrible, c'est une question méchante, je ne m'ai même pas demandé comment j'allais, si j'allais bien, tout ça, fait que non, je n'aime pas votre question, est-ce que vous travaillez pour NBC? J'aime pas NBC, des fake news media. » Quand quelques jours auparavant. Il était du côté de Fox News et justement, la journaliste a travaillé fort pour faire dire à Donald Trump que son but dans la vie n'était pas de régner en roi et maître sur les États-Unis puisque, citation dans un congrès devant des chrétiens, Donald Trump avait déclaré « Vous n'aurez plus à aller voter. Vous ne voterez plus jamais cette fois. Votez. Je vais redresser le pays. Vous n'aurez plus besoin de voter. Je n'aurai pas besoin de votre vote. Vous n'aurez plus à recommencer. » Et là, cette citation-là a fait dire « Coudonc, Donald Trump, à la fin de son deuxième mandat, bien qu'il ait été coupé en deux, est-ce qu'il voudrait faire un troisième mandat? » Rester au pouvoir malgré le fait qu'il n'est plus éligible en 2030. C'est ce que la journaliste a tenté d'y faire dire, parce que là, sentant la soupe chaude, elle a tenté de donner un coup de main à Donald Trump. Là, Donald, vous n'étiez pas en train de dire que vous vouliez garder le pouvoir après 2030, là. Vous vouliez dire qu'ils n'auront plus à voter pour vous parce que vous aurez eu un mandat de 4 ans. C'est bien cela que vous vouliez dire, a demandé Laura Ingraham, présentatrice de Fox News, coupant la parole à Donald Trump pour lui suggérer une certaine porte de sortie. Parce qu'un amendement à la Constitution américaine limite à 2 le nombre de mandats que peut exercer un président. Et c'est ce que le vote des chrétiens, c'est ce que Donald Trump essayait d'aller chercher en allant demander le vote des chrétiens. Vous ne savez pas pour qui. Vous savez qui d'autre ne vote pas? Les propriétaires d'armes à feu, a répondu Donald Trump, de nouveau interrompu par l'animatrice qui a dit à clarifier les choses. Donc lui essayait d'aller chercher ceux qui ne votent pas en disant votez pour moi, ça va être fait, vous n'aurez plus besoin de voter. Mais de la manière que c'était dit, c'est comme si. Dans 4 ans, lorsqu'il allait être à la fin de son deuxième mandat, il allait faire un amendement pour continuer à être le président, chose qu'il voudrait probablement faire, mais que s'il tente de faire, là, il y aurait un soulèvement pour vrai du côté américain et on aurait le droit au film La guerre civile, comme il a été à l'affiche au début de l'été, parce que la prémisse était ça. Un président américain qui s'installait pour un troisième mandat et qu'une guerre civile éclatait aux États-Unis, ben Donald Trump, qui voudrait faire un troisième mandat, ça ne donnerait peut-être pas nécessairement de guerre civile, quoique c'est tellement tendu aux États-Unis, mais la question se posait quand même. Est-ce que Donald Trump voudrait vraiment rester après son deuxième mandat et faire un troisième? Chose qui n'est jamais arrivée dans l'histoire du pays. Donc, voilà. La question est lancée. Ça va pas super bien pour lui. Les caisses électorales démocrates se remplissent de manière spectaculaire, tandis que Donald Trump perd des appuis lui aussi tranquillement, pas vite, mais... pas assez vite encore. Il sera candidat contre Kamala Harris. Le débat, pour l'instant, est suspendu puisque Donald, lui, était supposé débattre avec Joe Biden. Donc, il ne veut pas débattre avec Kamala parce que ce n'était pas ce qui était prévu à la base. Mais pour ne pas dire qu'il avait peur de Kamala Harris, pour ainsi dire, il n'avait pas qu'il avait peur de Kamala Harris. Enfin, bref! Voilà ce qu'il y a pour la politique américaine. C'est là que ça se termine. Beaucoup de politique, finalement, cette semaine. C'est là que ça se termine pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition du Deuxième Service, ici même sur les ondes de CFAQ 88.3 et de CHIZ 94.3 à Québec. À la semaine prochaine. Salut.